Gouvernement. Réaction du député LFI Aurélien Lecoq, invité d'Europe 1 Nuit dans un quart d'heure. Dans ce journal également, les débats sur l'aide active à mourir ce soir au Sénat. Et puis deux clubs français jouent en ce moment en Ligue des Champions de football. C'est la 7e journée. Le Paris Saint-Germain est opposé au Sporting Portugal 0-0 à la mi-temps. Le Real Madrid reçoit l'AS Monaco 2-0 pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Donald Trump réaffirme sa volonté d'annexer le Groenland. Depuis la Maison-Blanche, où il s'exprimait devant la presse pendant plus d'une heure, le président américain déclare sur un ton provocateur, je cite, « Vous allez voir jusqu'où je peux aller pour obtenir ce territoire arctique ». Pour le moment, des menaces de droits de douane planent toujours sur 8 pays européens, dont la France, pour les faire plier sur ce dossier. Face aux attaques des États-Unis, les Européens cherchent la bonne réponse. Et le forum de Davos, en Suisse, où se retrouvent toute la semaine plusieurs dirigeants du vieux continent, apparaît comme l'occasion de coordonner une riposte aux droits de douane annoncés par Donald Trump. Arthur Delaborde, dans ce contexte explosif, la prise de parole d'Emmanuel Macron à la mi-journée était particulièrement suivie. Le chef de l'État appelle à ne pas céder à la panique.
Sans jamais le nommer, Emmanuel Macron répond à Donald Trump et s'efforce de garder son calme, notamment face à la menace du président américain d'imposer 200% de droits de douane sur les vins et spiritueux français.
Il ne faut pas se laisser impressionner. On doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus.
Dans un contexte de forte tension entre Washington et l'Europe autour des ambitions américaines sur le Groenland, il réaffirme sa solidarité avec le Danemark.
Nous, on a un allié, un ami, qui est le Danemark. Quand il est attaqué, c'est normal qu'on soit là. On l'est dans un cadre totalement connu, totalement sincère, totalement transparent, contre personne.
Régulièrement moqué par Donald Trump, qui est allé jusqu'à publier un message privé sur les réseaux sociaux, le président français laisse planer le doute lorsqu'on lui demande si son homologue américain est toujours un allié.
Ce sont pas tout à fait les comportements qui vont avec, en effet, cette qualification.
Donald Trump est attendu demain à Davos. Emmanuel Macron, lui, repart ce soir sans modifier son agenda en vue d'une éventuelle rencontre.
Arthur Delaborde, une réponse ferme prônée par Emmanuel Macron. Le Parlement européen semble aller dans ce sens. Les eurodéputés décident aujourd'hui de suspendre le processus de ratification de l'accord commercial signé l'été dernier entre les 27 et les États-Unis. Accord largement favorable à Washington puisqu'il prévoit la suppression des droits de douane sur les exportations américaines vers le vieux continent. Le Parlement européen, où demeurent les derniers espoirs des opposants au traité du Mercosur. Les eurodéputés se prononceront demain sur une éventuelle saisie de la justice pour vérifier la légalité de l'accord commercial entre l'Union européenne et plusieurs pays sud-américains signé le week-end dernier. En cas de vote favorable, l'entrée en vigueur du texte serait reportée de plusieurs mois. Laura Legault s'est rendue à Strasbourg pour Europe 1, où plus de 5000 manifestants venus de plusieurs pays se sont retrouvés aujourd'hui pour faire pression sur les parlementaires.
Fumigène, banderoles, drapeaux à la main, les agriculteurs n'ont qu'un slogan à la bouche, non au Mercosur, comme Jérôme, venu de Vendée.
Cet accord, Madame van der Leyen l'a signé, mais nous n'en voulons pas, à aucun prix. Nous nous opposerons jusqu'au bout et nous utiliserons toutes les ficelles qui sont en notre pouvoir pour empêcher qu'il s'applique.
Ici, la colère se cristallise contre une femme, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Son nom est hué. Nicolas, 18 ans, l'accuse de mettre en péril l'agriculture européenne.
Von der Leyen, une chose, c'est qu'il faut que ça enrichisse ses poches, mais nous, en nous laissant crever.
Avec plus de 700 tracteurs qui entourent le Parlement, les agriculteurs espèrent bien faire pression sur les eurodéputés avant le vote de demain.
Notre objectif, c'est une saisine de la Cour européenne de justice pour pouvoir reporter ce Mercosur. L'idée à terme, c'est qu'il ne se signe pas, que c'est le dernier recours qu'on a pour que tout s'arrête.
Tous espèrent être entendus, comme Louise, agricultrice dans l'Aisne.
On a de l'espoir, c'est pour ça qu'on est là et qu'on est mobilisés et qu'on est sortis de nos fermes aujourd'hui. On a laissé nos vaches, on a laissé nos tracteurs, parce qu'on y croit encore.
Leur campement est prêt pour passer la nuit face au Parlement et faire pression jusqu'au bout. Strasbourg, Laura Legault, Europe 1.
Et après le vote des eurodéputés, demain, une motion de censure contre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, sera débattue jeudi à l'initiative du groupe Patriote pour l'Europe, dirigé par le patron du RN, Jordan Bardella. Le bilan s'alourdit encore dans le sud de l'Espagne. Le corps d'une 42e victime de la catastrophe ferroviaire survenue à Adamus dimanche soir en Andalousie, retrouvée cet après-midi. Les causes de cet accident impliquant deux trains à grande vitesse restent inconnues à ce stade. Selon les médias espagnols, l'enquête est centrée sur l'existence d'une fissure de plus de 30 cm de long sur la voie à l'endroit de la collision.
Europe 1 Nuit, Maëlle Hassani.
Sébastien Lecornu déclenche son premier 49-3 à l'Assemblée nationale. Un outil constitutionnel que le Premier ministre s'est finalement résolu à utiliser pour faire adopter le budget de l'État, malgré sa promesse d'y renoncer lorsqu'il est arrivé à Matignon. Alexis de la Fontaine, vous êtes au Palais Bourbon pour Europe 1. Ce premier passage en force, officialisé vers 17h, concerne la partie recette du projet de loi de finances.
Oui, Sébastien Lecornu franchit le Rubicon et engage la responsabilité de son gouvernement. Écoutez le Premier ministre justifier sa décision à la tribune de l'Assemblée nationale.
Les choses, vous le savez, sont désormais bloquées. Le texte n'est plus votable, quelles que soient les configurations, quelles que soient les circonstances. Or, nous considérons que la France doit avoir un budget.
Sébastien Lecornu accuse à nouveau la France Insoumise et le Rassemblement National de saboter les débats. En réponse, les oppositions vont déposer deux motions de censure qui seront mises au vote ce vendredi. Pour la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, ce sera un moment de vérité, notamment pour le Parti Socialiste.
L'isolement n'est pas du côté de la France Insoumise et des Insoumis, mais bien du côté des socialistes. Ceux-là même qui protestaient et qui disaient qu'ils allaient censurer le gouvernement Lecornu s'il ne renonçait pas au 49-3 et maintenant qu'il emploie et qu'il a recours au 49-3, annonce là aussi qu'il ne le censurerait pas, ce qui n'a plus aucun sens.
Les Républicains devraient eux aussi s'abstenir de voter la motion de censure et permettre à Sébastien Lecornu de faire adopter son budget très à gauche.
Alexis de la Fontaine à l'Assemblée nationale pour Europe 1, et dès vendredi, un autre 49-3 sera déclenché par Sébastien Lecornu pour faire passer la partie dépenses du budget avant un vote du Sénat, puis un ultime passage en force devant les députés. La promulgation du texte est attendue pour mi-février et nous reparlerons de ce premier 49-3 déclenché par Sébastien Lecornu et de ces motions de censure déposées entre autres par LFI avec justement un député insoumis du Nord, Aurélien Lecoq. Il sera avec nous dans Europe 1 Nuit à partir de 22h15. Marine Le Pen était appelée à la barre aujourd'hui. La figure du Rassemblement National, longuement auditionnée dans le cadre du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Ses collaborateurs payés par le Parlement européen et soupçonnés d'avoir travaillé pour le parti. Alexandre Chauveau devant le tribunal, celle qui pourrait être empêchée par la justice de se présenter à la prochaine présidentielle, s'est retrouvée en difficulté mais sans rien céder sur le fond.
Oui, au vu de l'audience préliminaire la semaine dernière, on pensait que Marine Le Pen allait légèrement infléchir sa défense en reconnaissant une partie des faits reprochés. Mais la principale prévenue s'est démenée cet après-midi pour nier sa responsabilité dans un quelconque système de rémunération des assistants parlementaires de son parti. Cela laisse penser qu'il y aurait eu manipulation, s'agace-t-elle. Et ce, malgré les questions de plus en plus précises de la présidente, qui, mail et témoignages à l'appui, place Marine Le Pen dans une situation souvent délicate. Alors la chef de file des députés RN reporte tantôt la faute sur le Parlement européen, coupable selon elle de ne pas avoir alerté le Front National sur un potentiel dysfonctionnement, tantôt sur son père Jean-Marie Le Pen, qui selon elle avait seule la main sur ce qui se passait à Strasbourg. Même face aux aveux de Julien Oudoul sur son absence de travail pour sa députée de l'époque, Marine Le Pen s'accroche à sa défense et affirme ne pas en avoir eu connaissance. L'objectif est clair, minimiser sa responsabilité pour tenter de sauver sa candidature à la présidentielle.
Alexandre Chauveau à la cour d'appel de Paris pour Europe 1. À moins de 2 mois des élections municipales, Anne Hidalgo apporte timidement son soutien à Emmanuel Grégoire dans la course à la mairie de Paris. La socialiste qui va passer la main après plus de 10 ans à la tête de la capitale ne s'était jusque-là jamais positionnée publiquement au sujet de la candidature de son ancien premier adjoint avec qui elle est en froid. Coup d'envoi d'une semaine de débats hautement sensibles au Sénat. La proposition de loi sur la fin de vie est examinée depuis la fin d'après-midi dans l'hémicycle de la Chambre haute. Ce texte prévoit notamment la légalisation d'une aide active à mourir. C'est la réforme sociétale voulu de longue date par Emmanuel Macron. Mais la majorité de droite et du centre veut instaurer un certain nombre de garde-fous. Récit de cette première journée de débat avec Jacques Seret pour Europe 1.
Lorsqu'elle se présente à la tribune, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, est bien décidée à faire passer cette réforme.
C'est une demande très forte de nos concitoyens qui nous est collectivement adressée, celle de ne pas détourner le regard.
Mais face à elle, la droite sénatoriale est loin d'être convaincue, bien au contraire.
Pourquoi ce texte maintenant, alors que tant de patients meurent encore sans accès effectif aux soins palliatifs ?
La rapporteure de la Commission des affaires sociales, Christine Bonfanti-Dossa, monte au front.
La réponse, mes chers collègues, n'est pas médicale. Elle n'est pas non plus juridique. Elle est politique.
Suivie de Bruno Retailleau.
Les garde-fous d'aujourd'hui ne garderont rien du tout. Dans ce domaine-là, les portes entrebâillées finissent toujours grandes ouvertes parce qu'il y a une logique, la logique de l'émancipation radicale.
Une logique défendue par l'écologiste Anne Souyris.
Notre République doit maintenant garantir la liberté, l'égalité, la fraternité face à la mort. Mon corps, mon choix.
Deux conceptions, deux visions de la vie et de la mort irréconciliables.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Reprise des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, mais que de temps perdu. C'est le sentiment du rapporteur, le député UDR Charles Alonque, déterminé à aller au bout des auditions malgré une interruption de près d'un mois sur fond de désaccord avec le président Horizon de cette même commission, Maïalène Trémollet.
Une course contre la montre, c'est ainsi que Charles Alonque illustre les semaines qui lui restent pour mener à son terme la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Après une interruption d'un mois, pas question pour le rapporteur de lâcher du lest sur les auditions.
Mais le travail est encore loin d'être achevé. Je ne céderai à aucune pression. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais rendu de compte qu'il faut que la représentation nationale passe son chemin ou baisse les yeux.
En balayant les critiques sur son mode de gestion, l'élu UDR préfère pointer du doigt l'absence totale de coopération et des entraves régulières à son travail de la part des représentants de France Télévisions et Radio France.
Près de deux mois après ma demande de documents, France Télévisions ne m'en avait envoyé moins de 1 sur 10.
Une nouvelle phase d'audition qui s'ouvre néanmoins sur une petite victoire de Charles Alonque. Patrick Sébastien, figure historique et populaire de France Télévisions, qui souhaitait lui-même s'exprimer sur les dérives de l'audiovisuel public, sera bien auditionné, malgré un premier refus de Jérémy Patrier-Lettus, président de la commission d'enquête, revenu finalement sur sa décision.
Maïalène Trémollet et le président de la commission proposent également d'interroger les anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui ont porté des réformes importantes de l'audiovisuel public, estime. Toutes les actualités développées dans ce journal, incertitudes géopolitiques, budget adopté sans ambition, est-ce de nature à rassurer les entrepreneurs? Poser la question, c'est y répondre. 12% des dirigeants se disent confiants pour notre économie cette année, seulement, selon le dernier baromètre de CCI France. Une morosité décryptée par le président des chambres de commerce et d'industrie, Alain Di Crescenzo.
J'ai rarement vu une période aussi négative qu'aujourd'hui. Cette enquête, on l'a commencée en 2015. Au plus bas, la confiance des entrepreneurs dans l'économie française a été de 10%. Aujourd'hui, elle est à 12%. On l'explique par, d'une part, une instabilité inconnue dans notre pays. Six gouvernements en deux ans, c'est pas connu. Une difficulté à avoir un budget qui peut préoccuper, parce qu'on a bien compris que l'entreprise serait fortement contributrice. Et puis, ça fait des années qu'il n'y a plus de croissance. Le monde de la PME, ça fait deux ans qu'il est en récession. Le monde de la TPE-PME, il n'y a pas de croissance. Et l'ambiance internationale, qui a énormément de difficultés aujourd'hui, donc imaginons avec 200% de droits de douane. Tout ça, ça nuit, si vous voulez, ça fait peur. Et ce qui nous amène à une baisse des investissements significatifs, une baisse des embauches. Il faut pivoter sur l'international et pivoter vers l'Europe. Peut-être qu'en France, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des idées et on sait les déployer. Faisons-le en 2026.
Alain Di Crescenzo, président de CCI France, interrogé pour Europe 1 par Romy Azoulay. Un point sur la Ligue des Champions, 7e journée ce soir, deux clubs français sur les terrains. Le Paris Saint-Germain affronte le Sporting Portugal, 51 minutes de jeu, 0-0 entre les deux équipes. C'est plus compliqué pour l'AS Monaco sur la pelouse du Real Madrid, 51 minutes de jeu également, 2-0 pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. La météo, désormais à 22h12 sur Europe 1, un temps bien perturbé dans le nord-ouest demain, Marlène Duret.
Oui, les perturbations se succèdent. Elles sont assez actives et en plus, elles circulent dans un contexte de sol gorgé d'eau. Voilà pourquoi une vigilance orange pluie inondation a été enclenchée dans le Finistère et le Morbihan. Elle entrera en vigueur à 4h du matin et se poursuivra jusqu'à 16h demain après-midi. Météo France prévoit 35 à 45 mm, localement jusqu'à 60 en 24h. Et au-delà des cumuls de pluie, le vent de sud va souffler assez fort. Il y a aussi une vigilance jaune vague submersion dans 5 département allant du Finistère à la Charente-Maritime. Bref, un temps effectivement bien perturbé qui s'étendra d'ailleurs de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, avant de gagner dans l'après-midi le Poitou-Charentes et même une partie de la Gironde. Sur le reste du pays, un temps plus calme avec des nuages de moins en moins nombreux à mesure que l'on se rapprochera des frontières de l'Est, après une matinée qui sera quand même parfois brumeuse, notamment dans le Nord-Est. Attention au brouillard givrant, notamment entre le Lyonnais et l'Alsace. Les températures maximales afficheront 4 degrés à Strasbourg, sous la grisaille, 10 à Reims, 11 à Lyon et à Caen, 12 à Paris, 13 à Limoges et à Nîmes, 14 au Mans et jusqu'à 16 à Perpignan.
Merci beaucoup Marlène Duret, 22h14. Sur Europe 1, j'accueille maintenant l'invité politique d'Europe 1 Nuit, le député LFI du Nord, Aurélien Lecoq. Bonsoir à vous, monsieur le député.
Bonsoir.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. On revient avec vous sur l'un des faits majeurs de ce mardi, le premier 49-3 déclenché par Sébastien Lecornu sur la partie recette du budget. Évidemment, LFI avait annoncé une motion de censure est déposée. Le RN va également déposer la sienne dans la foulée. Est-ce que vous espérez, Aurélien Lecoq, convaincre certains députés PS, certains députés LR de voter cette censure afin de renverser le gouvernement ? Est-ce que vous actez votre échec sur ce coup-là ?
Écoutez, nous appelons l'ensemble des parlementaires à se faire respecter, à défendre les Français et donc à renverser ce gouvernement et à faire obstacle à ce budget qui est un budget de malheur social, qui est un mauvais budget, qui est en réalité une forme de massacre à la tronçonneuse. Pourquoi ? Parce que le président de la République et son Premier ministre, Monsieur Lecornu, qui ont perdu les élections il y a un an, continuent de faire passer en force et d'imposer à la France un budget qui est un budget ultra-violent. Il y a quoi dans ce budget ? Il y a de nouveau 2 milliards de cadeaux faits aux plus riches par rapport à l'année dernière, et à côté de ça, il y a une véritable saignée sociale qui va percuter tous les Français les plus précaires. On a à l'intérieur de ce budget la suppression, toujours, de 4000 postes d'enseignants. On a des coupes budgétaires à la hauteur de 20 milliards à minima. On a une saignée de plusieurs milliards sur nos collectivités territoriales. Cela veut dire demain, et puisque les élections municipales arrivent, que dans toutes les communes de France, on ne va pas pouvoir ouvrir ou on va devoir fermer des crèches. Ça veut dire demain qu'on ne pourra pas avoir des transports en commun corrects. Cela veut dire qu'on ne pourra pas rénover les écoles lorsque elles tombent en lambeaux. Ça veut dire qu'on aura même peut-être à nouveau pas suffisamment d'enseignants dans ces écoles. Bref, tous nos services publics vont être mis à mal de la même manière que le gouvernement, avec la forfaiture des socialistes, puisqu'il s'agit de cela, de savoir si les socialistes vont censurer ou non, eh bien, les socialistes avaient déjà fait part de la même forfaiture, avaient déjà vendu leur âme au diable en décembre dernier, lorsqu'ils ont voté pour le budget de la sécurité sociale, qui, dans le même esprit, avait coupé plus de 3 milliards dans l'hôpital public, hôpital dans lequel des gens meurent dans les urgences.
Mais donc vous n'avez aucun espoir de voir certains députés PS peut-être désobéir aux ordres d'Olivier Faure ou de Boris Vallaud en votant à vos côtés. Pour vous, c'est déjà, l'échec est acté, il n'y a pas de suspense sur ce point-là.
Nous verrons. Moi, je dis aux députés socialistes, désobéissez. Désobéissez, n'obéissez pas aux consignes de votre direction qui s'est vendue et s'est dissous aujourd'hui à l'intérieur de la Macronie. Vous n'avez pas été élu pour ça. Vous avez été élu sur un programme de rupture, un programme clair, celui auquel les insoumises et les insoumis font honneur en déposant cette motion de censure, aux côtés, je le rappelle, des écologistes, aux côtés des communistes. Vous avez été élu pour rompre avec la politique d'Emmanuel Macron et ne pas en devenir les derniers sauveurs, la roue de secours, comme c'est le cas actuellement. Donc, bien sûr, nous appelons l'ensemble des députés qui auraient des consignes de leur direction politique pour ce sauvetage organisé d'Emmanuel Macron à désobéir et à voter la censure. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici de protéger les Françaises et les Français contre un budget d'une injustice sociale terrible. Quand je disais qu'il allait de nouveau y avoir des cadeaux faits aux plus riches, cela arrive le même jour, la même semaine, où nous apprenons que 53 milliardaires possèdent autant, 53 personnes possèdent autant que la moitié des Français, qu'une trentaine de personnes sous Emmanuel Macron se sont enrichies de l'ordre de 220 milliards d'euros, ce qui nous permettrait de financer par exemple 10 000 postes d'enseignants pendant 400 ans. Et à côté de ça, nous avons 11 millions de pauvres. C'est cela la réalité de la politique d'Emmanuel Macron. Il faut qu'elle s'arrête. Je ne crois pas que les députés socialistes aient été élus pour lui permettre de survivre.
En tout cas, les députés socialistes ont réussi à arracher un certain nombre de concessions une nouvelle fois au gouvernement. On parle évidemment de ce repas universitaire à 1 euro qui est généralisé. On parle de cette surtaxe sur les bénéfices des entreprises de 8 milliards, par exemple, sur les plus grandes entreprises. Bon, ça, c'est quand même des mesures qui doivent vous réjouir. Les socialistes n'ont pas fait que trahir la gauche. Ils ont également porté des revendications qui sont chères à la gauche depuis plusieurs années.
Écoutez, si demain je vous dis que je vais vous couper les deux bras, et qu'ensuite je dis dans ma grande mansuétude que je ne vous couperai qu'un bras et un poignet, est-ce que vous me remercierez ? Non, je ne crois pas. Tout cela, ce sont à peine des miettes. Par exemple, prenons le repas à 1 euro. Le repas à 1 euro, nous le défendons, nous l'avons voté à l'Assemblée nationale lorsque celui-ci a été voté. Mais excusez-moi, le repas à 1 euro, c'est au plus 80 millions d'euros qui sont mis sur la table par Emmanuel Macron. Dans le même temps, Emmanuel Macron et Le Cornu ont supprimé sur les deux dernières années 200 millions d'euros sur la mission vie étudiante. C'est-à-dire qu'ils suppriment plus que ce qu'ils redonnent. Si l'on parle de ce budget pour la jeunesse, il y a un très bon article de l'Étudiant qui montre que pour l'ensemble de la jeunesse entre 3 et 30 ans, ce budget c'est 1 milliard de coupes. On va avoir la diminution par 2 du pass culture, on va avoir la diminution par 2 du passeport, c'est-à-dire qu'il y a 800 000 enfants qui jusqu'ici pouvaient faire du sport, avoir accès à une licence grâce au passeport, qui demain ne pourront plus l'avoir. Donc, vous voyez bien ici que c'est une grande mascarade. On donne 80 millions d'un côté et on reprend près d'un milliard de l'autre à l'ensemble de la jeunesse. Donc non, ce n'est pas une avancée. Et pour ce qui est de la surtaxe d'impôt sur les sociétés, sur les très grandes entreprises de ce pays, c'est un cadeau en réalité qu'il aurait fait. Pourquoi ? L'année dernière, on nous expliquait que cette surtaxe allait rapporter 8 milliards. Là, en réalité, on exclut certaines sociétés de cette surtaxe. Et donc,
Ça reste 8 milliards, Aurélien Lecoq, me semble-t-il.
Eh bien, ça, c'est le chiffre annoncé par les socialistes et dans la presse. Mais l'amendement déposé par le gouvernement aujourd'hui, qui va rentrer dans le 49.3, le chiffre à 7,3 milliards. Ça veut dire qu'il y a 700 millions d'euros de cadeaux par rapport à l'année dernière. Les grandes entreprises paieront 700 millions d'euros de moins que ce qu'elles ont payé l'année dernière. Pour être technique, c'est parce que Le Cornu, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son intervention, en exclut une partie d'entreprises qu'on appelle les ETI. Voilà. Donc en fait, même cette surtaxe, ça, et les entreprises ont payé moins que l'année dernière. Mais surtout, même si ce qu'il disait est vrai, ils paieraient la même chose que l'année dernière. Pourquoi ils paieraient exactement la même chose que l'année dernière, alors que l'ensemble des Françaises et les Français vont devoir, eux, payer plus cher en payant le prix des coupes budgétaires. C'est d'une injustice absolue. C'est-à-dire qu'une fois encore, l'ensemble de l'effort porte sur les plus précaires. Et cela est absolument insupportable. Donc non, les socialistes ont en réalité rien gagné. Ils sont en train d'avaler un budget qui est d'une violence absolue, dans lequel, je disais, on a 20 milliards au moins de coupes budgétaires globales qui vont reposer sur tout le monde. Et si on prend ces 700 millions de moins de cadeaux faits aux grandes entreprises, si on y ajoute la contribution sur les hauts revenus qui était annoncée l'année dernière à 2 milliards et qui n'est plus annoncée cette année qu'à 600 millions, c'est-à-dire que là encore, celles et ceux qui gagnent plus de 20 000 euros par mois, et je crois que la plupart de vos auditeurs ne gagnent pas 20 000 euros par mois, eh bien, ceux qui gagnent plus de 20 000 euros par mois se voient attribuer un cadeau de 1 milliard 350 millions. Donc les plus riches sont moins mis à contribution que l'année dernière, alors que nos services publics, nos écoles, notre hôpital, je l'ai dit, eux, vont en subir le prix.
Alors vous êtes, on l'entend, Aurélien Lecoq, très dur avec le Parti Socialiste. Est-ce que ce comportement du Parti Socialiste, encore une fois, le refus du PS de voter la censure, vous fait dire qu'il n'y aura plus jamais d'accord avec le Parti Socialiste? Parce que vous dites effectivement, selon vos propos, qu'ils ont trahi l'engagement qu'ils ont pris au moment de la dernière élection, des dernières élections législatives sur le programme du Nouveau Front Populaire. Est-ce que ça veut dire, bon, on travaillera plus jamais ensemble? Ou est-ce que vous dites, moi, peut-être dans certaines conditions, on pourrait quand même essayer de trouver des points d'accord?
Écoutez, moi je vous dis clairement les choses. Aujourd'hui, ils ont rompu, et cela depuis déjà un an, très clairement l'accord du Nouveau Front Populaire. D'ailleurs, cela va de nouveau apparaître avec la censure, puisque écologistes, communistes et insoumis ont déposé ensemble, co-signé la motion de censure, vont la voter ensemble, pendant que les socialistes sont en train de jouer à la béquille de la Macronie. Donc, bien sûr, la rupture, elle est consommée, et moi, je le dis même clairement ce soir à votre antenne, il faut que les Françaises et les Français s'en souviennent au moment des prochaines élections.
Donc ça veut
et
dire, par exemple,
au moment des municipales.
Au moment des municipales, justement, Aurélien Lecoq, ça veut dire pas de retrait de candidats LFI pour faire gagner un candidat PS dans certaines villes.
Écoutez, sur les élections municipales, nous sommes en désaccord dans de nombreuses villes avec la gestion qui a été faite par les socialistes localement. Moi, je suis, par exemple, député de Lille, qui est aujourd'hui dirigé par les socialistes. Eh bien, les Lilloises et les Lillois vont payer cher le prix de ce budget. Combien va-t-il manquer à la fin du fait des coupes dans les collectivités territoriales? Combien de places de crèche le budget soutenu par les socialistes va coûter aux Lilloises et aux Lillois? Combien de bus ne pourront pas être mis en place à Lille à cause des socialistes? Bien sûr que cela aura un impact et c'est pour cela que dans de nombreuses villes, eh bien, nous présentons des listes. D'ailleurs, à Lille, la candidate s'appelle la Waria Hadouche. J'espère qu'il y a des Lillois qui nous écoutent. Mais nous souhaitons, dans de nombreuses villes, rompre avec les socialistes. Maintenant, je vais répondre à la question que vous posez. Évidemment, dans ces élections municipales, comme à chaque élection, si nous avons un désaccord frontal avec les socialistes et que la rupture est consommée, bien sûr, nous nous battrons toujours pour empêcher l'extrême droite ou la droite de l'emporter, puisque ceux-là font partie de ceux qui sont même directement au gouvernement aujourd'hui pour la droite, ou menacent toute une partie de notre cohésion nationale pour l'extrême droite.
Donc ça veut dire, dans certains cas, il pourrait y avoir des retraits de candidats LFI pour faire gagner des candidats
PS. Je ne parle pas de retrait, je ne parle pas de soutien. Je dis que nous nous battrons toujours face à la droite et face à l'extrême droite, mais que les socialistes aujourd'hui prennent une lourde responsabilité et qu'ils devront être comptables de ce qu'ils sont en train de faire dans les urnes les 15 et les 22 mars prochains.
Quand le Premier ministre vous accuse, vous, LFI, comme le RN d'ailleurs, d'avoir saboté les débats budgétaires, vous répondez quoi?
Mais qui a saboté les débats budgétaires? Celles et ceux qui, aujourd'hui, ont décidé d'interrompre le débat à l'Assemblée nationale, d'empêcher les parlementaires d'aller jusqu'au vote, qui décident de faire revenir un 49-3 alors même qu'ils s'étaient engagés et avaient promis de ne pas utiliser le 49-3. Non, écoutez, je crois qu'il faut être sérieux. Les Insoumis ont proposé de nombreux amendements. Peu d'amendements ont été adoptés, notamment du fait d'un front très clair entre le Rassemblement National et la Macronie, qui pendant tout l'examen du budget ont voté ensemble. Je rappelle que, par exemple, pour trouver des recettes nouvelles, pour réussir à financer nos services publics, c'est le Rassemblement National et la Macronie, main dans la main, qui ont voté contre la taxe Zucman, qui ont voté contre les taxes sur les superdividendes, qui ont rejeté les taxes sur les yachts, sur les jets, sur les holdings des ultra-riches. Donc, je ne crois pas que nous ayons saboté quoi que ce soit. Nous avons fait notre rôle de parlementaire, notre rôle d'opposant. Nous avons proposé de nombreux amendements. Nous avons débattu jusqu'au bout, mais force est de constater que le gouvernement étant minoritaire à l'Assemblée nationale comme dans le pays, eh bien, il ne lui reste plus que l'autoritarisme institutionnel pour passer en force et imposer son budget. Là, en l'occurrence, par 49-3, ce pourquoi notre réponse est la réponse la plus démocratique possible, c'est la censure.
Aurélien Lecoq, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député LFI du Nord. Un point sur l'actualité internationale qui est encore très riche ce soir, avec évidemment toutes ces menaces des États-Unis de Donald Trump envers l'Europe. Le président américain parle de 200% de droits de douane sur les vins et champagnes français, si jamais la France contrecarrait ses plans, globalement pour le Groenland notamment. Est-ce que l'Europe et vous semble en mesure de répondre à la première puissance mondiale?
Écoutez, moi je souhaite que l'Europe soit en mesure de répondre. Maintenant, j'observe que lorsque certains ont envoyé, par exemple, des troupes au Groenland, ça a été le cas de la France, ça a été le cas de l'Allemagne, l'Allemagne a tout de suite rétro-pédalé en annulant son opération parce que ils se sont fait gronder par l'oncle Sam américain. Donc bien sûr que nous souhaitons que les Européens soient capables ensemble d'avoir une position très ferme vis-à-vis de Donald Trump.
Et quand Emmanuel Macron parle d'instrument anti-coercition qui apparaît aujourd'hui, cet instrument comme la riposte la plus ferme à disposition des 27, est-ce qu'il faut aller sur ce terrain-là comme le dit Emmanuel Macron?
Je suis, pour dire les choses clairement, nous sommes tout à fait favorables à ce que puisse être utilisé l'instrument anti-coercition. Mais sauf que la réalité, c'est que les Européens ne sont aujourd'hui pas unis. Les Européens ne sont pas unis et les Européens et Emmanuel Macron ont été très faibles et se sont vendus à Donald Trump et ont permis la situation actuelle. Lorsque Ursula von der Leyen a accepté les accords douaniers, a même signé un accord de 650 milliards d'investissements aux États-Unis, c'était l'année dernière. Lorsque la plupart des pays européens, dont la France, ont accepté le chantage de M. Trump en acceptant d'augmenter leur budget militaire à hauteur de 5% à terme, en sachant très bien qu'ils allaient acheter la moitié de leurs armes aux États-Unis. Lorsque Emmanuel Macron et les Européens n'ont pas condamné l'agression de Trump au Venezuela, ils ont permis la situation actuelle. Donc maintenant, oui, il faut qu'il y ait une réaction, oui, il faut qu'il y ait un changement de politique, mais nous ne pouvons pas faire qu'attendre l'Union européenne. Aujourd'hui, la France doit prendre ses responsabilités, parler d'une voix forte, prendre des décisions fortes, ce pourquoi nous appelons la France à former une coalition du refus, un front du refus anti-Trump avec des pays européens, mais aussi avec des pays d'Amérique latine. Je pense par exemple à la Colombie ou au Mexique qui eux aussi sont menacés. La France doit faire valoir son non-alignement et son indépendance en sortant de l'OTAN. Et puis la France doit replacer cette question dans le cadre international légitime qui est celui de l'ONU. Et donc nous appelons à ce que la France convoque un conseil de sécurité de l'ONU, par exemple.
Dernière question, Aurélien Lecoq, ça concerne des propos de Rima Hassan, qui est eurodéputée LFI. Elle s'exprimait vendredi dernier lors d'un meeting de campagne. On écoute, elle s'exprime à propos de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Alors je sais que Retailleau et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient fait subir au pays. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Retailleau. À bas Retailleau.
Alors il y a ces propos en première partie de déclaration, Aurélien Lecoq, ça lui appartient et a priori voilà, tout le monde est ouvert au débat et on peut en parler. Et simplement, à bas Retailleau, on parle d'un ancien ministre, on parle d'un élu tout simplement de la République. Est-ce que ces propos à bas Retailleau, ça vous choque?
Mais monsieur, vous savez très bien que ces propos répondent à ceux de Bruno Retailleau
Qui parlait pas d'individu. Entre oui. Abat un vêtement, c'est-à-dire retirer un vêtement
vous
et abattre un individu,
bien,
c'est quand même différent.
Vous êtes bien d'accord sur le fait que dire abat le voile vise l'ensemble des femmes voilées dans ce pays. Est-ce que vous considérez que Bruno Retailleau, non. Est-ce que vous considérez que Bruno Retailleau voulait abattre toutes les femmes voilées de ce pays?
Ah bah absolument pas, non absolument pas, il parlait d'un vêtement. Là en l'occurrence, alors, à bas Retailleau, c'est beaucoup plus personnalisé.
Alors dans ces cas-là, vous voyez bien que c'est exactement la même chose. Et moi je le redis ici, tout mon soutien à Rima Hassan, qui aujourd'hui est visé par l'ensemble de l'extrême droite, qui est visé par une forme de harcèlement, qui y compris a un fond raciste et sexiste. Et la réalité c'est que Rima Hassan a raison, Monsieur Retailleau aujourd'hui vise l'ensemble des musulmans et des musulmanes de ce pays, que c'est absolument insupportable et que nous voulons nous débarrasser de cette idéologie politique qui consiste à diviser les Françaises entre eux, à les cibler en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau. Monsieur Retailleau a eu des propos qui sont absolument insupportables.
Merci,
et inadmissibles lorsqu'il s'est exprimé en disant ah bah le voile.
Merci Aurélien Lecoq. Je rappelle que vous êtes député LFI du Nord. Merci d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Nuit. Et à 22h32, je passe l'antenne avec un tout petit peu de retard avec Roland Pérez pour la Libre Antenne jusqu'à 1h. Bonsoir.
C'est
Roland.
Un grand plaisir de vous écouter. J'admirais votre calme, votre flegme. Vous auriez pu vous énerver un petit peu parce que vous aviez essayé de recentrer le débat sur les questions que vous aviez posées et sur votre remarque judicieuse.
Et vous savez, on est dans l'échange sur Europe 1. Vous le savez très bien, c'est la radio libre et tout le monde a la parole et on parle calmement, il n'y a pas de problème.
Bravo, bravo. Bah moi j'admire votre flegme, vous êtes un jeune et brillant journaliste, cher Maël.
Merci beaucoup Roland, c'est très gentil.
Et votre fiancé a de la chance.
Ah bah en plus.
Parce qu'évidemment il fallait qu'on vienne quand même, qu'on recentre le débat sur votre vie privée.
Oui, je prends avec 3 minutes de retard et vous me faites des compliments quand même.
Est-ce qu'elle mesure sa chance d'être avec vous?
On lui posera la question quand elle viendra dans votre émission.
Elle vous écoute, j'espère que j'écouterai, je lui donner le téléphone, 01 80 20 39 21. Toutes les fiancées de Maëlle, ou la seule fiancée de Maëlle, peut notamment nous joindre dans la Libre Antenne. Allez, j'arrête de vous embêter, on se retrouve à 23h pour les informations.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h.
La Libre Antenne.
Roland Pérez.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Ce soir encore, on va parler peut-être d'amour, de celui qui dure ou de celui qui s'abîme, celui qui revient quand on n'y croyait plus. On va parler de familles qui se serrent, de familles qui se déchirent, de silences qui font mal et parfois de mots qu'on n'a jamais osé dire. Si vous traversez une rupture, si vous espérez encore, si vous sentez seul ce soir ou au contraire plein d'un projet, d'une rencontre, d'un désir de recommencer, cette émission est la vôtre. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé, nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Florian et Julia, vous le savez, sont là à l'écoute, bienveillants pour recevoir vos appels et réalisations comme ça chaque soir. Laurent Pellepelé que je remercie. Il y a aussi l'adresse, je vous la donne, l'adresse courriel libreantenne@europe1.fr. Vous pouvez également nous joindre sur cette boîte mail. N'hésitez pas, même toute la journée d'ailleurs, vous pouvez nous appeler. Vous avez un poste spécial quand vous appelez au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous allez avoir une ligne spéciale qui va vous diriger sur la libre antenne. Vous pouvez y laisser un message, vous pouvez y laisser peut-être le brief de ce que vous souhaiteriez nous confier sur la libre antenne. Et puis Florian et Julia, quand ils arrivent dans l'après-midi, eh bien ils écoutent les messages et puis vous rappellent. Donc n'hésitez pas à le faire.
Et dites donc, Thomas Hill, ouais. Si mes comptes sont bons, le 23 janvier, ça sera votre 500e de Culture Média.
500e? Ah oui, ça se fête, ça, Anissa.
Ben oui, il faut faire une grande fête, une grande émission avec du public.
Puis avec plein d'amis d'Europe 1 et de Culture Média, Jean-Pierre Foucault, Cyril Ferraud, Isabelle Iturburu, Barbara Pravi, Pascal Obispo, Bérangère Krief, que des gens sympas, quoi.
Culture Média,
la 500e de Thomas Hill sur Europe 1.
On confirme la date ?
Le 23 janvier, en direct, de 10h à 11h30 sur Europe 1.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
La Libre Antenne.
22h30, 1h, Roland Pérez sur Europe 1.
Et bonsoir Léa.
Bonsoir.
Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir que de parler d'amour comme vous allez le faire, comme vous allez le faire avec nous pour débuter cette émission sur la Libre Antenne. Vous êtes, on va le dire, la spécialiste des lettres d'amour, notamment d'amour, on va le voir, et pas que d'amour.
Oui.
En France, vous avez rédigé près de 7000 lettres pour les autres, et donc pas seulement d'amour, mais ça peut être aussi de reconquête, hélas parfois de rupture, entre autres. Et vous êtes en fait une véritable amoureuse des mots et de l'amour. Comment a commencé cette passion, chère Léa ?
Eh bien, cette passion a commencé très jeune. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours tenu des carnets remplis de mots et de mots d'amour. Et pendant mes études, en fait, j'étais en hypocagne et j'ai monté un petit blog sans prétention à côté pour faire un petit peu autre chose que le bachotage et l'exigence que demande la cagne. Et un jour, j'ai posté une lettre que je n'avais jamais osé donner à mon ex. Et là, il y a plein de gens qui m'ont mis en commentaire « Oh, j'adore comment tu écris, est-ce que tu pourrais m'aider ? Est-ce que tu pourrais écrire pour moi ?» Et en fait, du coup, c'est les gens qui m'ont donné l'idée. Moi, ça ne serait jamais venu à l'esprit. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai fait ça gratuitement. J'écrivais pour les autres. Et en échange, les personnes acceptaient que je publie leurs lettres sur mon site.
Alors, voilà. Quand on vous rencontre et on vous dit « Et vous, que faites-vous ? Qu'est-ce que vous dites ?»
Je dis que je suis écrivaine publique spécialiste de l'intime, ou spécialiste du courrier sentimental.
Ah oui, spécialiste du courrier sentimental. Parce que c'est cela, vous aviez d'abord créé un site, alors que vous meniez brillamment vos études de lettres, de lettres à la fois classiques, et vous n'avez pas fait que ça d'ailleurs. Vous avez créé un site où vous parliez d'amour, et puis bon, l'audience était, on va dire, confidentielle, et jusqu'au jour où vous avez mis en ligne justement cette fameuse lettre très personnelle. Mmh. Vous aviez en fait retrouvé un courrier adressé à un ex, et c'est là où tout a commencé, où cette passion a pu être mise au grand jour. Et vous avez envisagé de professionnaliser finalement la rédaction de ces lettres.
Ouais, tout à fait. En fait, j'ai fait une école de commerce, j'étais en alternance chez le site de rencontres mythiques, et à la fin de mon alternance, des 2 ans d'alternance, je me suis dit non mais il faut que j'ai pas d'enfant, pour le moment je suis encore libre, c'est maintenant qu'il faut que je tente. Et je me suis dit, peut-être que, plutôt que de le garder en passion, peut-être que je vais pouvoir en vivre. Et c'était un pari un peu fou, mais voilà, ça a marché. Donc,
et qu'est-ce qu'ils ont pensé, vos proches, alors vos parents peut-être, vos petits amis de l'époque, l'ex qui s'est retrouvé avec la lettre qu'il n'avait jamais reçue. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, tous ces gens autour de vous, vos amis?
Je pense que pendant longtemps, ce n'était pas du tout pris au sérieux. Je dirais qu'il n'y a que mon père qui a cru en moi dès la première lettre, dès les prémices. Enfin, vraiment, mon père, il était derrière moi tout le temps. C'était d'ailleurs, je pense, mon premier lecteur et seul lecteur pendant longtemps, d'ailleurs. Et alors que ma mère avait plutôt peur, elle se disait « Attends, je comprends pas, t'as un bac plus 5, tu pourrais avoir une super place en CDI. Enfin, » Donc du coup, je dirais que c'était plutôt très mitigé, et je pense que mes amis se demandaient un peu ce que je faisais, et je pense qu'ils pensaient que je ne faisais rien de mes journées en vérité, alors que je bossais comme une folle.
Et oui, parce que c'est pas rien de se mettre à la place des autres, parce qu'il faut se mettre à la place des autres. Oui. C'est une introspection totale de l'autre. Total. Et vous allez nous expliquer un peu comment vous travaillez. Alors sur votre blog, sur votre site, votre travail est classé comment finalement? Comment on s'adresse à vous, pour quel type de lettre, et quel type de lettre vous proposez d'ailleurs?
Oui, alors déjà maintenant, en fait, depuis 2 ans, le site a été laissé un peu à l'abandon parce que les choses évoluent, la manière de communiquer évolue, donc maintenant tout est sur Instagram. Je communique uniquement sur Instagram, et donc il y a un petit lien dans la biographie pour que les gens puissent me commander une lettre. Et tout se fait maintenant sur un formulaire. Avant, je faisais aussi par téléphone, mais j'ai complètement arrêté parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un, c'est ce qui me permet de faire ce métier, mais d'extrêmement empathique. Et ce qui fait que ça me permet de me mettre totalement à la place des gens, mais ce qui fait aussi que lorsque je les avais au téléphone, il m'arrivait de pleurer avec eux et de me rendre littéralement malade parce que je les avais vus et entendus leurs trémolos, etc. Et
en fait, vous n'aviez pas la distance nécessaire pour leur faire la lettre qu'ils attendaient. Alors, on a les lettres, on a dit d'amour, mais pas ça, pas que.
Dans l'amour, il y a plein de choses, parce qu'il y a des lettres d'amour romantiques, des lettres d'amour impossibles, des lettres d'amour adultères, des lettres d'amour pour des amoureux, des amants, des amis,
des
retrouvailles incroyables de personnes qui ne se sont pas vues depuis 50 ans, de gratitude, de pardon, de réconciliation après de longues années aussi. Ça peut être j'ai fait récemment un père avec son fils, par exemple, c'était extrêmement émouvant. 2 sœurs, enfin, ça peut être vraiment tout. Et aussi, il y a des gens qui se commandent des lettres pour eux-mêmes. Ça arrive assez souvent.
Ah bon, en fait. Pourquoi? Ouais. Pour s'écrire soi-même et c'est quoi? C'est des personnes qui ont des égos incroyables, c'est quoi?
Non, pas du tout. Au contraire, non. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont été soit maltraités durant l'enfance, soit qui ont vécu des violences conjugales, physiques ou émotionnelles, et qui en fait ont besoin d'une lettre un petit peu pour se reconstruire, comme un mantra à lire et à relire à l'envie. Et du coup, voilà, ça va être une lettre extrêmement positive pour.
Et la lettre est adressée à soi-même et écrit. Qui est censé l'écrire, justement, la personne à qui elle est adressée?
C'est comme si elle s'écrivait une lettre elle-même.
D'accord. D'accord.
Ouais. C'est... Ou à leur enfant. Ça arrive souvent, ça aussi, j'écris une lettre à la petite.
Et alors, votre spécialité, véritablement, ça reste quand même le courrier sentimental. Vous ne faites pas, ou vous refusez, j'imagine, les courriers administratifs, même si c'est un
peu... Non, je ne fais pas, non.
Voilà. vous aimez cette plongée dans l'intimité de l'autre?
Oui, c'est sûr que c'est... c'est ce qui m'anime complètement. Alors on pourrait se dire qu'il y a un côté un peu voyeur, mais c'est pas du tout comme ça que moi je le vis. J'ai l'impression d'être une petite fée, en fait, qui va pouvoir aider les gens d'une manière ou d'une autre, soit à se réparer soi-même, soit à réparer une relation, soit juste à se faire du bien, à renouer des liens, et en fait de promouvoir le pouvoir magique des mots, tout simplement, parce qu'on oublie souvent que, en fait, l'écriture est un vrai remède à beaucoup de choses.
Je vous confirme.
Oui, bah.
Les personnes qui vous contactent, elles savent déjà ce qu'elles veulent dire?
Alors, il y a toutes sortes de personnes qui me contactent. Il y en a qui, la plupart du temps quand même, elles m'écrivent beaucoup. Elles rentrent dans les détails, dans les anecdotes, dans leur intimité vraiment profonde. Et il y a même des gens, et de plus en plus d'ailleurs, qui ont déjà écrit leurs lettres. Et qui vont me demander, en fait, soit de la sublimer, soit de la rendre plus poétique, plus drôle. Ou que récemment, l'été dernier, j'ai eu une maman qui allait marier son fils. Et elle m'a dit, il est cuisinier, j'aimerais beaucoup un discours de mariage sous forme de recette de cuisine. Ouais. Et donc, elle avait déjà presque tout écrit, mais sauf qu'il n'y avait pas la bonne forme. Donc là, c'est plutôt un exercice de style. Donc en fait, ça dépend de plein de choses et parfois c'est plus un exercice stylistique qu'autre chose, et parfois à l'inverse, c'est vraiment aider les gens à exprimer ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer du tout, qui restent bloqués.
Ouais, à trouver les bons mots. Et vous arrivez à le faire sans leur parler directement, puisqu'avant vous leur parliez pour échanger plus facilement, et aujourd'hui vous arrivez à le faire par écrit simplement. Vous arrivez à ressentir ce que les gens expriment, ce que les personnes arrivent à exprimer, parfois maladroitement, parfois pas avec les bons mots. Vous arrivez à les ressentir quand même de loin?
En fait, ce que j'explique souvent, c'est que c'est ça la partie, entre guillemets, la plus longue, c'est de lire et de relire le formulaire. Et à un moment donné, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je rentrais en transe, comme si j'étais une autre personne, que j'étais plus vraiment moi, et que je percevais exactement ce que la personne veut dire. Et du coup, quand j'écris, si j'écris une lettre où la personne, elle me demande une lettre de colère, de haine, parce qu'elle vient d'apprendre, je sais pas, une relation adultère de la part de son conjoint, ou voilà, et ben je vais être moi-même en tremblement, en colère. Je me rappelle une fois où mon conjoint, il est passé derrière moi et je lui ai mal parlé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui ai dit, mais désolé, en fait, je suis en train d'écrire une lettre où le mec, c'est un salaud. Et en fait, je rentre vraiment, et pareil, enfin, combien de fois je pleure, je suis en sanglots devant mon ordinateur. Donc c'est très énergivore, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu par procuration des milliers de vies. Et en même temps,
Allez-y, et en même temps.
Et en même temps, du coup, ça m'a permis, moi, dans ma vie personnelle aussi, de prendre beaucoup de hauteur et de distance sur plein de sujets, et d'être dans une grande bienveillance, je crois, envers les gens en général, et de n'être jamais dans le jugement.
C'est donnant-donnant dans ces histoires-là, dans ces échanges-là. J'imagine que vous, durant vos études, et puis amoureuse comme ça, des lettres et de l'amour, enfin de l'amour poétique, de l'amour écrit, vous êtes non pas inspirée, mais vous êtes nourrie des lettres d'amour qui avaient été écrites par les grands auteurs. On pense à Victor Hugo et Juliette Drouet, par exemple, où les lettres étaient d'une sensualité.
Henri Miller aussi.
Oui, Gustave Flaubert, Louise Collet, Kafka aussi, je crois, avec Milena. Même celles qui sont un peu fictionnelles, comme dans Les Liaisons dangereuses.
Tout à fait. Ça a été un roman qui a été une grande bascule pour moi, parce que je l'ai étudié au bac, et en fait, je l'ai lu. C'est le seul roman que j'ai dû lire deux ou trois fois. Je ne relis pas trop les livres normalement. Mmh. Et celui-ci, il y a des passages vraiment que je connais par cœur. Et je pense que j'ai été extrêmement admirative de la plume de Laclos, cette capacité à rentrer dans chacun de ces personnages qui sont pourtant si différents, et je pense que ça a aussi beaucoup joué.
Et puis la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau.
Tout à fait, bien sûr.
C'est aussi donc tout cela, ça a nourri votre passion. Vous écrivez depuis toute petite, je pense.
Oui, tout à fait, depuis toujours. Et puis j'ai tout gardé. Donc c'est chouette de pouvoir aussi voir les évolutions, tant en termes de plume, de style que de pensée, en fait.
Et Julia me précisait dans la fiche qu'elle a préparée, à mon intention, elle dit que Vous avez écrit de nombreuses lettres d'amour à vos amis.
Oui.
C'est important pour vous l'amitié. C'est, moi j'appelle ça l'amour, vous savez, ami, amour. Mais c'est important, pour moi je pense que c'est très important, mais ça l'était également pour vous au point d'écrire des lettres d'amour ?
J'écris des lettres d'amour à mes amis, à mon amoureux aussi, alors que ça fait 16 ans qu'on est ensemble, je lui écris encore aujourd'hui. c'est vraiment important pour moi de dire aux autres qu'on les aime, qu'ils comptent, et que ce soit écrit pour qu'ils puissent le relire, parce que ça reste avant tout un objet, une lettre. Je trouve que c'est très fort, enfin, en tout cas pour moi, comme cadeau d'anniversaire, je préfère un milliard de fois une lettre d'amour qu'un sac de marque. C'est pour moi, la lettre, le fait que l'autre prenne du temps pour nous, la démarche de s'asseoir à un bureau, de choisir le papier, le stylo, de penser à l'autre, de voilà, toute cette démarche, d'aller jusqu'à la poste, de mettre le timbre, je trouve ça sublime, en fait. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et du coup, j'ai envie de le partager aussi avec ceux que j'aime. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'écrire, de savoir écrire parfaitement pour le faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que beaucoup de gens font appel à moi, non pas parce qu'ils ne savent pas écrire, et c'est important de le dire, mais parce qu'en fait, souvent, ces personnes ont besoin de prendre du recul sur certaines situations. Et moi-même, combien de fois j'ai dit « Oh tiens, là, j'aurais bien aimé une Léa, parce que là, sur cette situation, à moi, là, dans laquelle je suis, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de recul, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est un peu compliqué parfois, en fait, de prendre de la distance sur des situations. »
Dites-moi, votre conjoint doit redouter, quand c'est pas une lettre d'amour que vous allez lui adresser, mais un autre type de lettre, et je le souhaite absolument pas, mais il doit redouter votre plume.
Je crois qu'il l'aime plus qu'il ne la redoute. Je crois que, et à tel point que lui aussi m'en écrit et m'en a écrit énormément, alors que avant moi il n'avait jamais écrit de sa vie. Mais je crois qu'il a très vite compris que ça faisait partie de mon langage de l'amour et que si on n'était pas deux à le parler, ça allait être compliqué.
Et il n'est pas complexé de vous écrire face à une plume comme la vôtre ?
Non. Non, et franchement, c'est vrai que ça, c'est très agréable. La seule chose qu'il me dit, c'est quand il écrit, il ne fait aucun brouillon, il écrit d'un coup, il ne se relit pas, parce que sinon, il va être trop jugeant avec lui-même, autocritique. Et donc, du coup, ça fait que parfois, justement, il y a des très belles tournures, et parfois, je lui dis ça, je pourrais te l'appliquer, ça, pour une lettre, parce que c'était bien trouvé.
et dites-moi, aujourd'hui, on s'écrit des SMS, on s'écrit des mails, on n'a plus de papier à lettres comme avant, on ne prend pas le temps de prendre avec de prendre la plus belle de ses écritures avec une calligraphie particulière, un stylo plume, une enveloppe, un timbre. Les gens qui vous demandent d'écrire des lettres, ce sont parfois des SMS, des WhatsApp ou des mails ?
Oui, il y en a, mais dans la plupart des cas, quand même, les gens me commandent une lettre pour ensuite la recopier avec à leur
Et l'envoyer par la poste ?
Oui.
D'accord, ça existe encore ?
Oui, ça existe encore. Soit la donner en main propre. Il y a beaucoup de gens qui le donnent en main propre aussi.
Et ça change quelque chose si quelqu'un vous dit « je vais lui envoyer un mail », est-ce que dans la forme, dans la longueur, dans les mots employés, ça va changer quelque chose ?
Le mail, non. Le SMS, oui. Le SMS, je vais le faire vraiment beaucoup plus court.
Oui, c'est ça. Vous allez le faire plus court parce que vous allez avoir l'impression qu'il a, si déjà il y a une... alors s'il y a de l'amour, il le lira jusqu'au bout, mais si c'est une lettre ou un SMS de rupture,
ça va l'angoisser.
C'est un peu plus... Quand justement on vous demande une lettre qui peut heurter votre sensibilité ou votre moralité, comment vous faites ?
Ouais, c'est une question, une très bonne question. J'ai refusé une lettre. Donc ça c'est depuis 2012 que je fais ce métier. J'ai refusé une seule lettre. Une lettre où un homme avait été violent envers sa femme et voulait une lettre d'excuse. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que, voilà, encore une fois, je suis vraiment pas là pour juger. C'est juste que là, j'avais trop peur, en fait, qu'à cause de moi, il se réconcilie et qu'il y ait à nouveau violence et que je sois l'origine de ça. Et c'était pas supportable pour moi dans ma conscience. J'en dormais pas, ça me faisait trop peur.
Donc vous lui avez dit non?
Ouais, je lui ai expliqué. Je lui ai dit que j'avais trop peur, que je ne le connaissais pas, que je pouvais pas adhérer à ça. Ça, et il y a une autre lettre que j'ai acceptée, mais que du coup j'ai un petit peu. Une femme qui était, elle ne le savait pas, mais en fait elle était malade, elle était érotomane. Et donc l'érotomanie, c'est quand on est
persuadé que l'autre vous aime alors que vous ne le connaissez pratiquement pas.
Ouais. Exactement. Et en fait, elle me demande une lettre d'amour et bon, je commence à lui écrire. Et puis, pendant que je lui écris, je ne sais plus quel était le détail, mais je me dis, tiens, c'est étrange. Je lui demandais une information complémentaire et là, elle me répond, ah non, mais je ne vous ai pas dit, on ne s'est jamais parlé.
Ah ouais.
Alors là, je tombe sur les fesses, je me dis, mais attends, elle connaît sa danse préférée, son chanteur préféré, sa boulangerie, elle connaissait tout, sauf qu'elle ne lui avait jamais parlé. Et donc là, je me suis dit, bon, je ne peux pas lui dire de but en blanc, vous avez un problème, madame. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien insisté dans la lettre de dire, je suis peut-être folle de penser que, alors que nous ne sommes jamais parlé, enfin, j'ai insisté là-dessus parce que je me suis dit, si jamais la lettre tombe entre les mains d'une potentielle épouse, que ne pas briser un couple, que ce soit bien écrit noir sur blanc, qu'il n'y a pas de relation.
Ouais,
c'est
ouais,
ça. Ouais. Ouais, c'était un patron et c'était une salariée et en fait, ils ne s'étaient jamais parlé et se croisaient dans les couloirs.
Et alors, donc ça, c'est un peu les limites de l'exercice. Et quand on, quand quelqu'un vous appelle, un homme, par exemple, vous appelle en disant, voilà, ça fait X années que je suis en relation avec quelqu'un, nous sommes ensemble, mais je n'arrive pas à lui dire que je vais la quitter, je n'arrive pas à trouver les mots, il vous décrit la situation qui laisse penser que l'autre est à milieu de penser que, qu'une rupture est annoncée. Vous faites cette lettre?
Oui, parce que en fait, moi je trouve que c'est très bien de passer par l'écrit pour une lettre de rupture. Plein de personnes trouvent, enfin, j'entends souvent, oh c'est très lâche, il faut le dire en face, etc. Je suis absolument d'accord pour qu'à un moment donné il y ait une conversation en face à face, mais je trouve que de poser les mots permet déjà de ne pas être coupé, parce que dire à quelqu'un je te quitte en face, c'est sûr qu'il va y avoir des larmes ou de la colère, et donc du coup on va pas pouvoir aller au bout du raisonnement. Et l'autre, du coup, n'aura pas les explications nécessaires pour faire son deuil. Et je trouve que, du coup, d'avoir cette lettre écrite qu'on va pouvoir, encore une fois, relire, permet de mieux comprendre et aussi d'avancer quand on est de l'autre côté. Et j'ai beaucoup de personnes qui me font appel à moi pour les ruptures en me disant qu'elles ont beaucoup de respect pour l'autre et que, justement, elles aimeraient une lettre de rupture en douceur, avec beaucoup de bienveillance et de gratitude pour ce qu'elles ont vécu. Et au fond, c'est une belle démarche. C'est pas du tout pour remettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est au contraire pour faire preuve de délicatesse pour pas heurter la personne avec qui elles ont créé quand même un beau bout de chemin.
Et justement, dans ce cas-là, vous disiez que vous mettiez à la place de celui qui vous demandait d'écrire. Vous vous mettez aussi à la place de celui ou celle qui reçoit la lettre?
Ah ben, ça m'arrive, mais j'évite de. Enfin, comment dire? Si c'est des lettres comme ça de rupture, je n'y pense pas. Enfin, je m'oblige à ne pas y penser parce que sinon je vais encore me retrouver à pleurer de l'autre côté. Et c'est du coup, en fait, en tout cas, je le fais toujours en conscience. Par contre, quand c'est une lettre, par exemple, comme ça, de lettre de rupture en douceur, je vais faire en sorte qu'elle soit le plus facilement acceptée par l'autre, enfin que l'autre ne soit pas brisé à sa lecture, c'est ce que je veux dire. Mmh. Après, il y a des lettres, après des découvertes terribles d'adultère ou à l'inverse, là on me dit j'ai la haine, je veux crier vengeance, et là c'est un autre état d'esprit.
Et oui, et là vous vous mettez encore à la place de celui qui souffre.
Et oui.
Et évidemment, vous avez, j'imagine, des milliers d'exemples depuis toutes ces lettres qui ont été écrites. Quel a été le alors vous nous avez dit ceux que vous avez refusés. Quel a été le cas, enfin les lettres les plus extravagantes qu'on vous a demandées?
Alors il y a un cas un petit peu, j'en parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est la seule fois où on m'a demandé, c'était un petit peu fou. En plus j'avais 22 ans je crois quand j'ai commencé, donc évidemment je taisais mon âge hein, pour la légitimité. Ouais. Mais on m'a demandé un contrat d'esclavage. Alors sur le coup je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait c'était une femme dans le milieu BDSM. Une femme dominatrice qui voulait un contrat de soumission pour son homme soumis. Et donc, c'était un... on m'avait vraiment sorti de ma zone de confort à ce moment-là.
Oui.
Mais j'avais adoré l'exercice, hein, parce que justement, c'est ça qui est intéressant aussi, de vraiment faire des choses différentes. Donc c'est un exemple voilà qui m'est resté.
Et vous vous êtes plongé sur ces films, enfin sur des films ou sur des.
En fait, elle m'avait dit si vous ne connaissez pas le milieu, et elle m'avait fait une liste de sites. Et du coup, j'avais potassé comme ça.
Il y a par exemple 50 Shades of Grey, qu'on filme où c'était.
Ouais, mais à l'époque, c'était pas encore ce film-là.
Écoutez, regardez ce que je vous propose, parce que j'ai envie que vous nous donniez encore beaucoup d'exemples des lettres et des demandes extravagantes qu'on a pu vous faire, des demandes parfois les plus émotives aussi, les plus troublantes. Et puis après, vous allez nous dire un peu comment vous travaillez, combien ça coûte, on a envie d'aller un peu plus loin. Donc, je vous propose de rester avec nous, chère Léa, sur Europe 1, on va poursuivre la conversation. Justement, Maëlle Hassani est rentrée dans le studio. Nous sommes avec Léa, Maëlle. Je sais que vous étiez en train de préparer votre journal. Vous n'avez donc pas probablement écouté. Et Léa est écrivain public, spécialiste du courrier sentimental. Elle écrit des mots d'amour pour les autres. Ah. Et donc des lettres d'amour. Parfois des lettres de rupture. Parfois des lettres où elle crie son désarroi et son mécontentement quand une femme ou un homme a été trompé. Mais elle écrit aussi beaucoup, beaucoup de lettres d'amour. Et je pensais à vous, chère Maëlle, peut-être qu'on pourra faire appel à elle pour une lettre que vous pourriez adresser à votre dulcinée.